Bonjour, nous sommes toujours en direct du festival Mixter avec Masato pour suivre cet événement estival presque autour de l'art culinaire et de sa diversité. Et nous sommes très heureux d'accueillir avec nous le chef Roger Mbouika qui vient de réaliser un plat en public tout à l'heure. Bonjour Roger.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de la radio.
Merci beaucoup à vous aussi.
Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer quel est votre parcours ?
En effet, j'ai un parcours un peu atypique hein, parce que j'ai commencé par les arts graphiques. J'ai étudié en Seine-et-Marne. J'ai fait une formation d'imprimeur à la base et j'ai commencé à exercer donc de 77 à 80. J'ai fait un BEP d'imprimerie et après j'ai fait une année complémentaire à l'école supérieure des arts et industries graphiques Estienne de Paris également. Et à partir de 82, j'ai commencé à travailler dans une imprimerie de presse. On imprimait les affiches du Figaro, de l'Express, du Point, Nous Deux, tous les grands groupes de presse de l'époque.
L'univers du journal d'abord.
Voilà. Et puis, bon, dans les années 2007-2008, compte tenu de l'avènement du numérique, l'imprimerie commençait à s'essouffler un tout petit peu. Et puis, comme j'ai toujours apprécié l'art culinaire, je me suis retrouvé au chômage. Et puis, un jour, j'ai vu une annonce qu'on pouvait préparer un CAP de cuisine. Et voilà, l'aventure était partie. Donc, j'ai fait 9 mois de formation. Après, je me suis retrouvé sur le marché du travail. Et j'avais fait un stage dans un restaurant à Paris, au bord de la Seine, à Levallois, le Haut Restaurant. Et après le stage, ils m'ont gardé. Voilà. Par contre, il fallait commencer comme plongeur parce que c'était la règle. J'ai fait 6 mois de plonge et puis après, j'ai gravi les échelons.
Petit à petit.
Petit à petit, voilà.
C'est très hiérarchisé.
C'est comme l'armée. Ouais. Voilà. Vous avez les plongeurs, les commis, les chefs de parti, le sous-chef de parti, les chefs de parti. Voilà. Et puis l'assistant, le second du chef, après le chef. Voilà.
Vous avez aimé gravir ces échelons?
Ah oui, on voit bien quand on arrive, on voit les plats qui sortent, on se dit est-ce que je vais y arriver un jour à faire des sauces comme ci, des sauces comme ça? Et puis un jour, on vous dit vous allez passer à tel poste, et ainsi de suite, et puis on est content, on est ravis. Voilà. Et puis j'ai eu la chance de travailler dans des grands restaurants, et puis des bons souvenirs, l'ambiance. Je sais que le bon souvenir que j'ai, j'ai travaillé longtemps dans une maison d'intérim et puis un jour ils me disent monsieur Roger, vous allez au Perger, au camp de Loge. Alors moi je me dis que c'était un restaurant qui était placé à côté du camp de Loge au centre de Paris Saint-Germain. On me dit non, c'est le resto du Paris Saint-Germain. Je dis comment ça? Non, mais vous allez voir, il y a Zlatan, toutes les stars de l'époque. Et puis j'arrive là-bas, j'étais ébloui, quoi, voilà. Heureusement je suis tombé sur un chef qui est toujours là-bas d'ailleurs, qui m'a dit non, c'est rien, c'est comme partout. Faites pas attention aux stars, faites le boulot. Donc je suis resté 6 mois en CDD. C'est une expérience vraiment intéressante, quoi.
D'accord. Et donc là, vous étiez essentiellement formé sur la cuisine, on va dire, française ou...
Moi, j'ai une formation typiquement française.
D'accord.
Voilà.
Et ensuite, vous avez développé votre activité également sur la cuisine française ou c'était un peu déjà orienté
Après, j'ai eu une... Je suis allé en Afrique pour un voyage privé. Et je me suis rendu compte que la cuisine africaine est très goûteuse, mais sauf qu'au niveau des ingrédients, ils exagèrent un peu. Donc il fallait essayer de planifier ça, de mesurer. C'est un problème de dosage.
Ah, de dosage. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est trop dosé, par exemple?
Ils partent du principe que plus il y a des ingrédients, mieux ça vaut.
Ah, d'accord.
Voilà, ils tiennent pas compte que trop d'ingrédients, ça tue l'ingrédient. Il faut le goût du poisson, le goût de la viande, mais ils dosent pas trop. Voilà. Donc j'ai essayé de... ça, c'est une initiative personnelle. Parce que dans les restos d'entreprise, il y a des plats qu'on fait pour le personnel. Et quand c'est mon tour, j'ai essayé d'imposer la cuisine africaine, mais en révisitant un tout petit peu. Voilà. Et puis un jour, j'ai fait du poulet yassa. Et le chef a dit, on peut mettre ça sur la carte. C'est très goûteux et tout, mais c'est comme ça que c'est parti.
D'accord. Voilà. Donc le poulet yassa, revisité, c'est ce que vous avez présenté aujourd'hui devant le
avec
public.
Du blanc de poulet émincé, avec des oignons.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez essayé d'adapter justement pour...
Mais au niveau des ingrédients, j'ai essayé de limiter un peu. Parce que c'est un plat qui est d'originaire du sud du Sénégal. Moi, je suis du Congo.
D'accord.
Et j'ai remarqué qu'ils en mettaient un peu trop, il y avait trop d'ingrédients. Voilà.
Et donc vous vouliez mettre en avant le produit.
Le produit. Et puis alléger les ingrédients. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai utilisé un kilo de blanc de poulet pour 250 grammes d'oignons. Voilà, c'est précis. D'accord. Voilà. J'ai pas rajouté de gingembre, j'ai pas mis de moutarde, sel, poivre. Et puis légèrement blanc de poulet, sauce de, comment on appelle, du bouillon déshydraté. Mmh. Voilà, légèrement.
D'accord.
D'où tirez-vous vos influences en cuisine ? Est-ce que c'est des choses que vous goûtez et que vous essayez d'ensuite adapter dans votre cuisine ? Est-ce que c'est des choses que vous lisez ? Est-ce que c'est des choses que vous entendez de la part d'autres chefs ? Est-ce que c'est même familial ?
Pas du tout, parce que moi, je suis parti de l'Afrique un peu jeune. Hein, et puis, bon, là-bas, on ne faisait pas attention à la cuisine. Donc, c'est maintenant que j'ai redécouvert la cuisine africaine. Et sinon, mon influence est typiquement française. Et surtout que j'ai eu des chefs d'originaire de l'Ouest. Voilà. Et donc là-bas, c'est le canard, c'est le foie gras. Alors j'ai toujours été influencé.
Ah, le Sud-Ouest.
Ah, le Sud-Ouest. Voilà. Ah, c'est impressionnant.
Une cuisine forte.
Ah oui, typique. La cuisine forte, ouais. Le magret de canard, le foie gras, mi-cuit, travaillé. Parce que moi, quand je fais du foie gras, je ne prends jamais le foie gras cuit, je prends le mi-cuit que je travaille moi-même. Je parfume par exemple avec du jus de fruits de la passion, des choses comme ça, de l'orange. Du jus d'orange. Voilà.
Donc vous vous inspirez beaucoup des chefs que vous avez eu la chance de rencontrer dans votre parcours.
Ah oui, ben comme la plupart des cuisiniers d'ailleurs.
Ouais. Voilà. Ça se transmet en
ça
fait.
Ça se transmet, oui. Et puis bon, il y en a qui ont une influence de leur mère ou de leur grand-mère, ainsi de suite. Mais moi, c'est beaucoup plus les chefs quand même. Ouais. Voilà. Par contre, mes filles, j'ai deux filles qui s'inspirent de moi.
Ah oui.
Et j'ai deux petites filles, 12 ans et 6 ans, qui s'inspirent. Je fais des ateliers avec elle, des ateliers de pâtisserie, des petits trucs comme ça.
Ah donc vous utilisez vraiment, vous avez vraiment envie de transmettre.
Ah oui, bien sûr. Tous les cuisiniers, ils ont envie de transmettre. Voilà, des fois j'ai quelques soucis, mais j'appelle un chef, j'ai mon carnet, ah bah tiens, j'ai ça à faire, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller ? Bah, il est content. Hein, ils sont des grands postes, mais il se dit bon, je te rappelle ou je t'envoie un SMS. Jamais il va dire non, je peux pas et tout. Mais, voilà, ils le font.
Il n'y a pas de secret en cuisine ?
Oh, si, il y en a qui ont leur petite combine qui dévoilera jamais. Voilà, c'est un petit truc, voilà, qu'on peut faire. Par exemple, moi j'aime bien mélanger de la crème fraîche liquide avec du.
Et là, vous nous livrez votre secret là.
Oh, mais bon. C'est pas dans le cadre professionnel. Voilà, vous ne direz à personne, bien que tout le monde nous entende, je pense. Et avec du lait de coco. Et ça donne un petit goût subtil. Et souvent, on demande, mais c'est différent, c'est allégé, tout ça. Ben oui, mais c'est... Voilà. Et il y a un chef qui me disait il n'y a pas longtemps, mais tu me fais ton petit truc que tu me fais. Là, je ne sais pas comment tu fais ça, mais tu me fais ça pour la sauce. Ah, ça fait plaisir. Voilà, c'est une petite combine. Quoi.
Ah, j'essaierai.
Vous avez des aliments sur lesquels vous comptez beaucoup, des produits sur lesquels vous comptez beaucoup dans votre cuisine qui sont un peu à la base ?
Oui, bien sûr, toujours.
Lesquels ?
Bah, la pomme de terre, par exemple. Et puis, les lentilles. Voilà. J'aime bien les travailler, quoi. La pomme de terre, c'est vraiment basique. On peut faire l'écrasé de pomme de terre, la purée, les pommes de terre sautées, les pommes...
C'est infini.
La pomme de terre, franchement, c'est un produit que j'apprécie vachement. Et puis, c'est pas cher. Voilà. C'est bien qu'originaire de l'Amérique du Sud, c'est pour ça que les gens ne savent pas trop. Ben, elle vient du Pérou. Là-bas, il y a encore plus de variétés. Voilà.
Les cuisines, autant que les produits, s'échangent à travers le monde. C'est vrai que là, par exemple, vous citez la pomme de terre ou la tomate qui viennent d'Amérique du Sud, mais en fait, énormément de produits viennent du monde entier. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez envie, vous, de savoir à chaque fois d'où vient le produit et son histoire ?
Ah oui, bien sûr. Ben, pour ça, je me documente un peu. Je sais que les clous de girofle, c'est en Afrique de l'Est, hein, vers la Zambie, le Kenya, Zanzibar. Voilà, et puis quoi encore il y a plein de produits comme ça. Le poivre vert du Cameroun, c'est une excellence, quoi. Voilà. Donc, des produits comme ça.
Et j'ai vu qu'aujourd'hui, vous pratiquez une activité donc, de chef à domicile, c'est bien ça ?
Je travaille dans une école et puis le week-end, je fais chef à domicile.
D'accord.
Voilà.
Et vous êtes sur la cuisine afro-caribéenne, c'est ça ?
Ah oui, ça c'est je suis en train de développer ça.
Et qu'est-ce qui vous a amené vers ce côté caribéen ? Quelles sont les similitudes, les rapprochements qu'on peut trouver entre cuisine africaine
et caribéenne ? Parce que en fin de compte, c'est pour faire le trait d'union. Voilà. Moi, j'étais en Guadeloupe, par exemple. Là-bas, j'ai trouvé à Marie-Galante. Il y a une famille qui m'avait reçu, qui m'ont dit, voilà, on va vous faire un plat qui vient de chez vous. Vous êtes du Congo ? Je dis oui. Et bien, les esclaves congolais ont gardé leur tradition. On m'a fait une soupe qu'on appelle soupe à Congo. J'étais surpris, c'est quoi ce truc et tout. C'est du porc avec des ignames ou des tubercules de manioc. Voilà. S'ils font un ragoût avec ça.
D'accord.
J'étais surpris, j'ai dit, mais c'est pas possible.
Et vous l'avez découvert là-bas ?
J'ai découvert là-bas, voilà.
Ça n'existe, enfin, vous ne l'aviez pas goûté au Congo ?
Non. Et quand il y a un an, j'étais au Congo, et les amis m'ont demandé de faire un truc, j'ai fait ça.
Que vous avez ramené des Caraïbes.
Voilà, des Caraïbes. Il y a un restaurant. Il y a un monsieur qui m'a dit, moi, j'ai un ami qui a un restaurant. Il faut que vous lui montrez comment on fait ça. Comme ça, quand vous serez parti, on ira manger ça là-bas. Et le gars, maintenant, il en a fait un plat phare.
Ah oui.
Voilà.
Ouais. Quand vous avez envie de faire plaisir à vos filles ou à vos petites filles, qu'est-ce que vous leur cuisinez ?
Mes filles sont très plats français. Voilà. La dernière fois, ils m'ont demandé de faire des côtes d'agneau.
Voilà. Et vos petites filles ?
Les petites filles, c'est la viande.
Ah oui ?
Voilà, tourne d'eau, entrecôte. Et si on ne les arrête pas, ils y vont.
Elles mangent la vache entière.
Oh ouais, alors. Ils connaissent les races. Par exemple, j'achète du Black Angus, qui est une race américaine. Bon, c'est un peu cher, mais ils aiment bien les tourne d'eau, du Black Angus et tout. Ma petite fille de 5 ans. À son école, elle a dit « Oui, mais bon, la purée, c'est pas comme ce que mon papy fait. » Puis le cuisinier m'a cherché à me rencontrer. « Mais qu'est-ce que vous faites comme purée ?» Oh, j'ai dit « C'est une écrasée de pommes de terre avec de l'huile d'olive. » Elle me dit « on ne peut pas faire ça, on a 350 couverts. » J'ai dit « Non, mais elle le dit comme ça. » Mais bon, je lui ai dit qu'il ne faut pas comparer la cuisine de l'école et ce que je fais.
Mais pourtant, vous faites aussi, j'imagine, parfois des plats en grande quantité.
Ah oui, mais bien sûr, puisque je suis dans un lycée où on fait 450 couverts le midi. Et le soir, c'est 80 couverts. 450 couverts, il faut y aller. Quoi. Voilà.
Et vous aimez bien parfois ce rapport à la quantité et de faire beaucoup pour beaucoup ?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça fait plaisir de voir des élèves qui sont contents et tout. Qui râlent pas trop.
Vous leur faites votre écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive ?
Ah oui, le soir surtout, parce qu'il n'y a que 80 couverts le soir. Ça, je leur fais, elles en demandent. Alors souvent, il y a des problèmes. Ouais, mais le soir, on mange mieux que le midi. Je leur dis, non, il ne faut pas comparer. Vous êtes 80 le soir et 450 le midi. On ne peut pas jouer dans la finesse, quoi, parce qu'on n'a pas le temps non plus. Hein. On n'est que 5 en cuisine.
Voilà. Justement, je voulais vous demander, là, sur scène, vous étiez tout seul, mais c'est rare, en fait, finalement, qu'un chef soit réellement tout seul.
Il faut un commis. Voilà, parce que, bon, le problème, c'est qu'il faut être soigneux. Vous n'allez pas préparer, utiliser les différents plats et puis les laisser traîner comme ça. Alors que là, si vous avez un commis, lui, il vous aide, vous lui demandez quelque chose, il vous donne, il lave, il place et ainsi de suite. Mais après, sinon, on ne se retrouve plus sur le plan de travail. Quoi, voilà.
Il faut que le plan de travail soit toujours propre.
Ah oui, ça, c'est ce qu'on vous dit dès que vous commencez. Le chef, il insiste là-dessus, il regarde sans arrêt. C'est vraiment l'armée, quoi. Voilà.
Ouais. Il y a d'autres règles comme ça
Être propre tout le temps. Dans certains restaurants, bon, nous, je sais qu'on commence avec une tenue le matin, avec des tabliers, et pendant le service, on change. Voilà, pour des raisons d'hygiène, bien sûr. Et puis, on est appelé des fois à aller en salle. On ne va pas y aller avec un tablier. Ça dénote une certaine désinvolture. Et puis, le client trouve ça un peu douteux. Voilà, parce que parfois, il y a certains restaurants, ils vous demandent d'aller en salle, parce que le client est content de ce qu'il a mangé. Il aimerait voir qui a fait le plat.
Vous changez.
Ah, vous changez, oui, voilà.
Hop, un petit costume.
Ouais, et puis les amis se moquent de vous, le chouchou, ainsi de suite et tout. Puis, ouais, qu'est-ce qu'il a donné comme pourboire et tout. Ouais, je me rappelle d'avoir servi M. Balkany, le maire de Valois. Il était content de ce qu'il avait mangé, puis il avait cherché à me voir. Je suis arrivé. Il était surpris de voir que c'était un noir qui lui avait fait ce qu'il avait mangé. Il y a plein d'anecdotes comme ça. Un truc inattendu. C'est ça. Quoi, voilà.
Et là, ça vous a fait plaisir de ce moment-là tout à l'heure ?
Ah oui, c'était un moment magique.
De relation avec le public ?
Ah oui. C'est, dans 2 ans, c'est ce que je vais faire en Afrique. Voilà, produire des émissions, aller de pays en pays, voilà, c'est pour parler avec des gens qui vont m'encourager dans ce contexte-là. Quoi.
Et c'est vous qui allez vous produire, qui allez montrer vos recettes ?
Voilà. Il y a un journaliste qui le fait ici sur TF1. Il fait des petites séquences de 2 minutes, je crois. Je vais m'inspirer de ça.
Voilà. Ah, super projet.
On a hâte de découvrir ça.
Oh ben, je reviendrai vous voir.
Avec grand plaisir. Allez. Vous êtes le bienvenu ici.
Allez, je vous remercie.
Merci beaucoup, Roger.
Allez, merci. Bonne merci continuation
beaucoup.
À vous.
Merci hein. beaucoup. Au revoir. Bonne au revoir, journée. À bientôt sur Studio Zef. On continue avec un morceau de la playlist culinaire. On ne sait pas ce que c'est. Ce sera une surprise. On regarde intensément Guillaume qui choisit actuellement la musique. Et on se retrouve après pour de prochaines interviews.